Salut Daniel, ben voilà une bonne nouvelle. Je viens de voir sur internet un article qui est paru dans la Dépêche du Midi aujourd'hui. Il s'agit de deux jeunes qui ont sauvé de la noyade un retraité. Ça se passe à Quillan, ça se passe dans l'Aude, dans le sud-ouest bien sûr. Bon, ben c'est le genre de fait divers qui n'intéressera pas le national certainement. Alors tu peux leur dire bravo? Ben voilà, c'est tout, c'est pour ça que je téléphone. Mais bravo d'autant plus que ces deux ados s'appellent, bon pour l'un, Aubin Lopez, bon ça va les Espagnols dans le sud-ouest, au bout depuis les années 30, ils sont bien intégrés. Mais son copain, lui, il s'appelle Mehdi Bechaoui. Ouais, même s'il est né en France, il n'est pas au bout du chemin encore, celui-là. Voilà. Alors, ben, les gamins, ils ont vu l'homme dans la rivière, ils ont sauté, ils l'ont sauvé, ils se sont retrouvés tout essoufflés sur la berge. Moi, je trouve que ça vaut bien un bravo. Tu le fais? Voilà. Merci. C'était Régine, dans les Pyrénées. Au revoir.
Eh bien, salut Daniel, salut tous les MG. Voilà, ben, je suis à Bordeaux. Sarko, je te vois pas, mais je sais que tu es là. J'ai la rue devant chez moi. 13 fourgons de CRS, puis un autocar, les voitures anti-émeutes. Et c'est tout le quartier comme ça. De Saint-Michel à Sainte-Croix, aujourd'hui, on ne passe pas. Sarko mange à la Toupina. C'est le restaurant le plus chicose de Bordeaux. Sa Majesté se déplace. Les voisins doivent rester chez eux. Voilà, l'ambiance, ça s'arrange. Nous voilà en état de siège. Salut à toi Daniel, salut à tous et bon courage pour la suite et n'oubliez pas de voter samedi. Ciao, ciao.
Oui, salut Daniel. Je t'appelle en rapport avec le message d'aujourd'hui là, de Anne-Marie en Isère qui critiquait l'action des salariés de Continental. Alors j'aimerais lui rappeler à cette brave dame que malheureusement par les temps qui courent, quand on se retrouve face à des patrons et des actionnaires qui nous piquent tous nos pognons, malheureusement, la dégradation ou la violence n'est plus que le dernier moyen pour arriver à avoir ses fins. Moi, j'ai ma belle-mère, son usine Schaeffler Drive System a fermé, 32 ans d'ancienneté, ils partent avec 17 000 euros. Ils ont bloqué l'usine pendant une semaine sans rien casser dans la légalité. Ils n'ont rien eu, comme quoi, eh ben, la légalité, ça paye pas toujours. Voilà, c'était Antoine de Grenoble. Et puis, continuez cette émission, moi je l'écoute tous les jours dans mon poids lourd, c'est sensationnel. Au revoir.
Bonjour, je réagis au sujet d'une auditrice de 69 ans, je ne sais pas son nom, qui a appelé aujourd'hui pour nous dire que les Contis devaient mettre la main à la pâte pour les dégâts causés. Moi, je soutiens les Contis, même si je ne suis pas d'accord avec eux quand ils brûlent des pneus. Mais concernant cette auditrice, à chacun ses valeurs. Moi, je rage que mes impôts payent le concert de Johnny qui coûte 1 million d'euros aux contribuables. Je ne suis pas d'accord pour avoir renfloué le Crédit Lyonnais ou la Société Générale ou arrosé grassement Bernard Tapie. Oui, je suis d'accord pour financer le service public avec mes impôts et notamment là-bas si j'y suis. N'en déplaise aux grincheux qui préfèrent peut-être payer pour voir Drucker ou Patrick Sébastien. Voilà, je suis encore très énervée. Merci à tous, bon courage à tous. Et comme disait l'autre, surtout, ne lâchez rien. Merci, au revoir.
Il doit bien rester encore 2 ou 3 bergers dans les Landes, non? Alors qu'ils courent vite, mais très vite maintenant, déposer une paire des chasses sur les plages de Normandie pour samedi prochain, dernier quart. Eh oui, les talonnettes de notre président interplanétaire ne suffiront pas. Au moment de la photo, il va se retrouver coincé entre Barack et Charles qui culminent tous les deux à plus d'1,85 m. Il y va donc du prestige de notre nation. Merci d'avance.
AMG du Toircet dans les Deux-Sèvres. Et à ce passage, bien évidemment, n'oubliez pas le prochain rendez-vous lundi 8 juin. À partir de 18h30 au café Repère de Thouars, qui est, je le rappelle, le café des arts 53 rue Saint-Médard. Waouh, ça rime. Bon week-end à tous, et en particulier aux AMG du Bressuirey qui accueillent Daniel Mermet, dimanche prochain, pour la projection du film Chomsky et compagnie. C'était Marie-France.
Merci Marie-France, merci à tous. Ouh, j'ai couru pour arriver jusqu'à ce micro. Merci à tous et merci pour vos messages. Non seulement je serai à Montcoutan ce dimanche, mais je serai aussi samedi à 20h au Moulin du Roc à Niort, projection du Chomsky et compagnie, et demain samedi à Poitiers à 15h, également projection de Chomsky avec des commentaires. Je suis essoufflé, mais ça tombe très bien aujourd'hui parce que on est à... à La Paz. On est à plus de 4000 mètres. Et c'est comme ça, on est dans cet état-là. Les premiers jours, on arrive dans cet endroit. Le problème de l'altitude, dès qu'on fait un geste, dès qu'on remue un petit peu, eh ben, on est dans cet état-là. Et oui, le temps de s'adapter. Mais on va avoir le temps de s'adapter puisqu'on va évoquer aujourd'hui un grand moment de cette vie, de cette ville, de cette révolution bolivienne, cette révolution andalouse, c'est la guerre du gaz. C'est au cours de cette guerre du gaz et c'est à l'issue de cette guerre du gaz que tout a changé dans ce pays et notamment dans cette ville qui surplombe La Paz, qui est El Alto. Cette ville auto-construite, 800 000, 1 million d'habitants venus d'un peu partout de la région, mais de plus loin à travers le pays, et qui, on peut dire, ont construit cette ville eux-mêmes. Non seulement ont construit cette ville, mais cette société, et qui, en septembre et octobre 2003, vous vous en souvenez peut-être, se sont littéralement insurgés contre le gouvernement qui a fini par, eh ben, par partir. Le président Goni a fini par quitter lamentablement le pouvoir, et ça a été le début du grand changement, du grand renversement politique en Bolivie. Voilà ce que nous allons évoquer aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse Sigislu au 01 56 40 37 37.
Salut les AMG, c'est un producteur de lait du sud-ouest qui vous appelle. La lutte continue. Le ministre Barnier s'est engagé à faire signer un accord avant les élections européennes de dimanche. Dimanche 7 juin 2009, le ministre sera élu à l'Assemblée européenne. Alors le prix du lait, c'est dire si ça l'intéresse. Depuis hier, on désinforme à plein tuyau de lait sur toutes les zones, même chez toi, France Inter. On nous dit 280 euros les 1000 litres. En effet, 20% du lait sera payé à ce prix-là. Cela pourra descendre jusqu'à 262 euros la tonne. Et pour nous annoncer ça, qui en entend? Pas Barnier, non, non. Jean-Michel Le Métayer, patron de la FNSEA. Le représentant des producteurs de lait s'appelle Brichard, Henri Brichard. Il doit être à faune aujourd'hui. Cet accord est mauvais. Les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées l'ont dénoncé. Ah, bah oui, j'ai oublié. La FNSEA siège à toutes les assemblées générales du MEDEF. Tiens, tiens, le MEDEF, y aurait-il pas des liens avec la grande distribution? C'est inquiétant tout ça. Salut.
Salut Daniel, c'est Nico de la CNT Paris. Un petit mot pour te dire et rappeler à tous les auditeurs que ce week-end, on fait une grosse fête à Montreuil, donc dans le 93. On commence ce soir avec un film qui s'appelle Bernard, ni Dieu ni chaussette, qui a été réalisé par des camarades de l'équipe des Mutins de Tanger. On poursuit avec un concert de Serge Géroyot, Bruno Daraki, Christian Courvoisier et nos camarades rappeurs Pisco MC et La Cabine. On ose tout, nous. Samedi, énormément de débats, les libres, l'imagination au pouvoir, la convergence des luttes d'un maternel à l'université, la lutte des travailleurs sans papier, les libertés publiques dans quel état, avec Laurent Bonelli, Mathieu Rigouste, des copains sociologues que tu connais bien. 18h, J'ai très mal au travail, le film de Jean-Michel Carré, en sa présence. On poursuit le soir avec plein de groupes de musique, Angry Cats, Guarapita et Yoka. Et le dimanche, tiens, tu vas être surpris, on passe à 13h dans notre grande salle, donc chèrement Gatti à la parole errante, un film qui s'appelle Chomsky et compagnie, en présence de Olivier Azam. Puis, à 17h, on poursuit avec des débats. Auparavant, il y aura eu Chon dernière, avec Martin, l'un des co-réalisateurs. Et puis, on finira toutes ces festivités avec un gros concert du ministère des Affaires Populaires, suivi d'un concert Jim Apple Memorial. C'est un groupe de ska. Bon, tout ça se passe chez notre copain dramaturge Armand Gatti, au 9 rue François Desbergues, à la parole errante, au 9300 Montreuil, métro Croix de Chavaux. Tous les renseignements sont sur le site cntf.org. Tout est à prix libre. Salut, fraternité, force et détermination.
Aujourd'hui, c'est vendredi. Yes, week-end.
Mais c'était quoi la guerre du gaz en fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce qu'on voulait pas que notre gaz soit vendu.
C'était
dans mon quartier.
Ciudadela.
Donc c'est à Ciudadela, c'est en haut de l'autoroute où je vous ai
la courbe dans ce
garage.
Empezaban a disparar.
C'est là qu'ils ont tiré.
Sí, la pasarela de abajo, los tumbaron, lo han dinamitado.
Alors là, pendant les événements, pendant l'insurrection, on avait fait tomber les passerelles. On avait dynamité.
Claro, de la guerra del Chaco.
Ils c'était des antiquités. Notre plan, c'était de tirer dans la citerne pour que le camion citerne explose.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis avec Antoine Chao. Bolivie, une révolution en dents de scie.
Yo vi que él, digamos, era tan a diestra y siniestra la balacera.
Alors, il tirait tellement de part et d'autre.
Que inclusive han tiroteado, es decir, han lanzado la ráfaga a casas, a domicilios.
Donc, ils ont même tiré vers les maisons.
En el segundo piso.
Ici, là, au deuxième étage, cette
esta
maison.
Esta casa de ladrillo.
Cette maison en brique, là, face à nous qui venait pas
peinte. Tenía un boquete. De, realmente por eso decimos que eran armas de guerra.
Il y avait un trou dans le mur énorme. C'est pour ça qu'on a su que c'était des armes de guerre, des armes d'assaut.
La bala entra con tan mala suerte que la señora está sentada en su sala.
Donc là, il y avait une femme qui était assise dans sa salle à manger.
Y ella estaba embarazada.
Elle était enceinte.
Y ella se sienta y la bala perfora la pared y le perfora todo. Todo
et la bala a traversé le mur et lui a aussi traversé le ventre.
Claro, la guagua, es decir, la criatura que estaba muere instantáneamente.
Donc le bébé meurt sí. Dans l'instant.
Y ella muere en el traslado de este lugar a una clínica. Que es...
Et elle meurt pendant le transport vers un hôpital.
Claro, ahí el señor queda viudo. Una vez más, siete criaturas.
Le mari est resté veuf avec sept enfants.
Por acá entró la tropa.
Alors la troupe est rentrée par ici pour aller à Villa Ingenio.
Villa Ingenio es una zona de las más empobrecidas de la ciudad del Alto.
C'est un des quartiers les plus pauvres ici del Alto.
Y que claro, en ese momento también estaban movilizadas y estaban cubriendo el otro puente de la zona.
Donc c'était une zone qui s'était beaucoup mobilisée aussi sur cette guerre du gaz, sur les revendications.
Y el puente se llama Elizardo Pérez.
Le pont qu'il bloquait s'appelait Elizardo Pérez.
Enfrentaron con palos y piedras al ejército,
donc,
a la tropa.
Ils ont affronté les militaires, mais avec des bâtons et des pierres.
Comme 14 seront 10 kilomètres.
C'est à peu près donc,
había
10 kilomètres. Et c'était
todo.
Noir de monde.
Sí. Y el domingo es la masacre, ¿no?
Et le massacre sector. Ici s'est déroulé le dimanche.
12 de octubre.
12 octobre 2003.
Digamos la consigna en ese momento era que la tropa no pasara. No más militares.
Et leur consigne était on ne laissera pas passer l'armée. Nous ne voulons plus de militaires à l'intérieur del Alto.
Exactamente. Y es el saldo más alto de toda la masacre.
Et c'est ici qu'il y a eu le plus grand nombre de morts.
Están accediendo, estamos escuchando tiroteos de ráfagas en realidad, sin más motivo. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Pero están baleando a diestra y siniestra la gente. No sé ya qué se puede hacer. ¿Con qué vamos a defender? ¿Con tanque?
Guerre du gaz, c'est beaucoup dit. Une guerre suppose des forces en présence, des forces militaires en présence. Or, les forces en présence, c'était un peuple, le peuple del Alto et d'autres endroits aussi de la Bolivie en ce début d'octobre 2003, mais essentiellement là, à El Alto, cette immense banlieue au-dessus de La Paz, ce peuple-là insurgé face aux forces déployées de l'armée bolivienne dotée de chars, de militaires tirant dans le tas et utilisant toutes les armes possibles. Donc c'est pas véritablement une guerre, c'est une insurrection et c'est une répression sanglante. On dit aujourd'hui 60, 80 morts, on sait pas exactement quel a été le bilan de ces journées terribles, 400, 500, 600 blessés parmi les insurgés. Qui étaient ces insurgés? Ben c'est ce qu'on va essayer de comprendre. J'ai évoqué El Alto en disant que c'était une ville auto-construite. C'est aussi une ville auto-organisée. L'État, jusque-là, n'avait pas tellement prise sur ni contrôle sur cette ville étonnante. Par contre, les habitants, oui, par la force des choses, par les obligations de vivre ensemble, de s'organiser, de travailler, de commercer. Et cette ville a une situation très particulière. Elle est au-dessus, je le répète, de La Paz. Et elle est à un croisement de routes qu'il suffit de bloquer pour bloquer le pays. En plus, El Alto, c'est l'aéroport. En plus, El Alto, c'est les entrepôts de toutes sortes. El Alto, c'est aussi les entrepôts de carburant. Donc, c'est un stratégiquement, c'est évidemment un lieu particulier et qui n'a pas manqué d'être très particulier en ces jours d'octobre, de septembre et d'octobre 2003. Insurrection, sang, larmes, revendications, un peuple en armes, des éléments très divers de la population s'insurge contre un gouvernement. On va voir les causes et les raisons. Elles étaient multiples. Elles se sont focalisées sur cette histoire de gaz qu'on va évoquer plus précisément. Mais surtout, ça a été une lutte contre les politiques néolibérales telles qu'elles sont menées en Amérique latine depuis fort longtemps, à travers ces thérapies de choc, à travers ces programmes imposés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, et à travers, en l'occurrence, un président, González Sánchez de Lozada, qui était au pouvoir à ce moment-là, qui était l'homme des Américains et qui avait imposé cette politique en ce qui concerne les ressources de gaz qui avaient été découvertes quelques temps auparavant. On va évoquer tout ça. C'est un grand moment pour ce pays. Et je le rappelle, ce pays, cette Bolivie, qui est un laboratoire pour l'Amérique latine et sans doute au-delà avec cette révolution en dents de scie. C'est jusqu'à 16 heures. C'est la bassiste.
De mesa, caros, parece. Ya estamos cansados de todas tus torpezas. Y ahora que me llenas con tu ley del gas, andate con el don y mejor que te hagas gas. Las transnacionales quieren todo el petróleo. Ya estamos cansados de todo este rollo. Vayan a la mierda, no les queremos más. Me quedo aquí solito, solito con el gas. Y la Shell nos viene a explotar. Como los del Tunari igual van a volar. Es la crisis del capitalismo. Ya van a caer, prefiero el radicalismo. Desde que se imita lo esto casi todo. Solo por querer volver nuestro petróleo. Ya se lo ha pasado de toda esta historia. Y ahora está cagado con toda esta oratoria. Candelas que cobras la enja de la Shell. Destruye nuestros bosques, van a desaparecer. Si no los expulsamos y no hacemos nada, nos quedaremos sin petróleo y sin agua. El pretexto de la globalización. El gobierno promueve la enajenación mientras contaminan los selvas y los ríos. Pinches empresarios están en un gran lío. A tantas petroleras tenemos que vencer. Vamos a expulsarlas, no hay nada más que hacer. No les paguemos nada, son ellos los que deben. Tempestos de sabotaje, ya nadie más espera. Sánchez de los Aras asesino el choro. Si vuelves a Bolivia te espero chacho coro. Ya lo metieron al pinche Rodríguez. Andate para Harvard con nosotros no convives. Gerentes petroleros empiezan a temblar.
Mi prima de Atacachi a todos va a cortar. Con su cuchillo
y su macana con dinamita hará volar la carne.
Scène de guerre civile à La Paz. Un soldat bolivien tire à balles réelles sur des manifestants en plein centre de la capitale.
France 3.
D'autres militaires pourchassent des protestataires avant de les viser à bout portant avec des grenades lacrymogènes.
13 octobre 2003.
L'armée et la police bolivienne utilisent les grands moyens pour réprimer les manifestations qui secouent le pays depuis plusieurs jours. Le gouvernement reconnaît 7 morts, mais pour l'église et les syndicats, il y a plus de 30 victimes et une centaine de blessés. À l'origine de ces manifestations, la politique économique du président et en particulier un décret du gouvernement autorisant l'exportation de gaz naturel vers le Chili à des conditions qui s'apparentent à du bradage pour les syndicats.
Si no puede.
Evo Morales.
Si le gouvernement ne peut pas réviser les contrats conclus avec les multinationales pétrolières, le mieux est qu'il s'en aille.
Le mouvement de protestation a commencé ici à El Alto, une banlieue populaire de la capitale bolivienne.
Acá está Warisata.
On est là, à Warisata. Donc c'est l'endroit où sont enterrées les trois premières victimes de la guerre du gaz. Ici, à Warisata. C'est cette route pour Sorata qui a été bloquée par les Ponchos Rojos. Si. Et deux bus de touristes américains sont restés bloqués, ne pouvaient plus rentrer pour prendre leur dîner à La Paz. Donc, l'ambassade américaine a été prévenue et l'armée est intervenue. Trois morts. Voilà, c'est le début, l'étincelle qui met le feu aux poudres de ce qu'on appelle la guerre du gaz.
Voilà ce qui a mis le feu aux poudres à ce qu'on appelle la guerre du gaz. El Alto, c'est l'endroit de l'insurrection, c'est là où ça s'est développé. Vous vous souvenez peut-être et vous voyez un peu les images sonores qu'on vous présente. Mais en fait, ça a commencé, alors on peut dire, il y a très longtemps, à travers toutes ces luttes sociales anciennes. Mais dans la période que nous considérons, ça a commencé là, à Warirata, c'est-à-dire au bord du lac Titicaca, au bord de dans cette région contrôlée par les Aymaras, où c'est installé depuis longtemps cette communauté Aymara. Là, il y a des manifestations pour tout un tas de raisons sociales, communautaires, etc. Mais il s'est passé autre chose, c'est que au début des années 2000, une réserve considérable de gaz a été découverte en Bolivie et qui va faire de la Bolivie le deuxième producteur de gaz naturel de l'Amérique latine. C'est donc une aubaine formidable pour ce pays très pauvre qui est l'un des pays les plus pauvres des États-Unis, des Amériques. Et que va faire le gouvernement, González Sánchez de Lozada étant le président? Eh bien, c'est d'offrir ces réserves à des multinationales qui ne manquent pas de se précipiter pour exploiter et exporter ces ressources vers les États-Unis via le Chili. Et ça, dès qu'on dit Chili en Bolivie, on remue un couteau dans la plaie bolivienne, dans la plaie du cœur des Boliviens. Il y a eu une guerre à la fin du 19e siècle entre le Chili et la Bolivie, à l'issue de laquelle la Bolivie a été privée de son accès à la mer. Et c'est quelque chose de terrible pour les Boliviens qui entretiennent toujours cette défaite. Ils rêvent de la mer. Les Boliviens rêvent d'accès à la mer. Or, l'exportation de ce gaz naturel va se faire par un gazoduc qui traversera le Chili, et ça, c'est la décision de trop. C'est la décision de trop. Évidemment, c'est ces choses qui focalisent les mécontentements et les luttes, etc. C'est pas ça qui se passe, mais c'est là-dessus que ça va se fixer. Et donc, dans cette région de Warirata, il y a des manifestations, les Ponchos Rojos qu'on a rencontrés dans les précédents reportages, qui manifestent. Ils manifestent comment? Ils bloquent les routes comment? En mettant des pierres sur les routes. Alors l'armée, les autorités repoussent ces pierres, mais les paysans les remettent immédiatement. C'est donc une situation complètement bloquée qui bloque des touristes. Et parmi ces touristes, il y a des touristes états-uniens dans leurs autocars qui ne peuvent pas rentrer à l'aéroport. Et ça, c'est insupportable pour l'ambassade des États-Unis qui fait pression sur le gouvernement, qui envoie l'armée. Et que fait l'armée? L'armée tire dans le tas et va tuer trois personnes qui manifestent là. Ça va être les trois premiers morts de cette guerre du gaz. C'est ça qui va tout déclencher. Mais là, on est avec Véronica, qui est une sociologue, qui nous accompagne, qui nous explique ça très précisément. Elle a étudié cette guerre du gaz, et on veut aller dans le cimetière, le petit cimetière de Warirata, où les trois premières victimes ont été enterrées, un hommage à ces victimes. Et quel était le sens donné à ces morts à ce moment-là de l'histoire de la Bolivie? Surprise, dans ce cimetière, les plaques commémoratives ont disparu.
La
Manrene, después el Juan Cosme, después el otro, el este más este.
Nancy Marlene Ramos. Nancy Marlene Ramos.
Sí, Ramos era, ¿no?
De todos los tres estaban así acopladitos.
Les trois tombes étaient les unes à côté des autres.
No,
tenía
letras.
Tenía, yo he leído también en ocasión.
Y había una inscripción.
No he leído.
C'est très très touchant là. C'est quand même un cimetière extraordinaire. C'est peut-être pas le cimetière le plus haut du monde, mais c'en est pas loin. On est à 4002, 4004. En bas là-bas, on aperçoit le lac.
Mira, la placa de la tumba es altamente política.
La plaque a été retirée, donc a priori c'est cette tombe-là.
Eran los tres han sido enterrados como mártires indígenas.
Donc les trois ont été enterrés comme des martyrs indigènes.
Por una causa, ellos lo ponen así, de la nación Aymara.
Por una causa de la nación Aymara.
No, en la lucha por la recuperación de la tierra.
Dans une lutte pour la récupération de la terre.
El territorio.
Du territoire.
El poder.
Le pouvoir.
Y por la defensa del gas.
Et pour la défense du gaz.
Contra el ALCA.
Contre l'ALCA, le traité de libre-échange avec les États-Unis.
Ya han pasado cuántos años desde el 2003.
C'était en 2003, ça fait 6 ans.
Entonces era un momento muy álgido, muy eufórico.
C'était un moment très euphorique à ce
collectivamente.
Moment. Collectif.
Más los muertos, entonces era el ánimo era muy caldeado.
Y avec en plus ces morts, ces victimes, ces martyrs, la tensión était très élevée.
Ese momento que también fue un momento traumático porque fue un momento de terror, de muerte, ¿no?
Y eso ça a été un moment assez traumatisant, traumatique, parce que cette ferveur s'est accompagnée par des moments très violents, par des morts.
Y claro, ha habido un momento, digamos, mucho más lento, donde yo creo que socialmente ha habido como cuando se sedimenta.
Mais après, il y a eu comme une sédimentation de cette colère.
En la localidad de Sorata estaban. Toda la parte del altiplano estaba ya empezando a bloquearse.
Toute la partie ici de l'altiplano était déjà bloquée par les communautés. Blocage routier.
Y quedaron atrapados, entre comillas, dos buses con turistas extranjeros, sobre todo norteamericanos.
Donc il y a deux autobus de touristes, pour la plupart états-uniens, qui du coup sont restés bloqués dans la localité de Sorata, qui est touristique, qui est un lieu touristique.
Por mandato directo desde, bueno, prácticamente desde la embajada.
Par ordre quasiment direct donné par l'ambassade des États-Unis.
El entonces el ministro de Defensa Sánchez Berzaín.
Donc le ministre à l'époque de la Défense.
La mano dura de Gonzalo Sánchez de Lozada.
C'était vraiment la main droite de Gonzalo Sánchez de Lozada, le président.
Él mismo comanda el supuesto rescate de estos dos buses de turistas.
Donc lui prend en main lui-même en personne l'évacuation de ces touristes en péril.
Ahí entonces entra tropa militar con caimanes, camiones.
Donc ils envoient les militaires avec des véhicules blindés.
Él abre en camino, salen las dos buses, escoltados.
Donc, ils arrivent à ouvrir un des barrages et à faire évacuer ces deux autobus.
Y ahí empieza el enfrentamiento. Cuando ya pasan en camino hacia La Paz.
Et une fois que les deux bus sont passés, c'est là que les affrontements commencent.
Ahí el ejército empieza la arremetida.
Donc l'armée commence à tirer.
On est le 20 septembre.
Eso se, bueno, la población mucho más masivamente movilizada era la de Guarizata.
Et les plus engagés dans le blocage étaient justement les habitants de cette municipalité ici, qui s'appelle Guarizata.
Y acá caen tres personas. Muere un profesor.
Et ici, il y a trois personnes qui tombent, un professeur.
Juan Cosme Apaza.
Juan Cosme Apaza.
La niña de 8 años.
Une petite fille de 8 ans.
Nancy Marlene Rojas.
Nancy Marlene Rojas.
Y un joven estudiante de la normal de Guarizata.
Et un jeune étudiant ici qui étudiait dans une école de formation des leaders indigènes.
Que se llama Grover Maita Coraca.
Il s'appelle Grover Maita Coraca.
De 23 años.
Qui avait 23 ans.
Voilà. Ça semble complètement fou. Cet affrontement qu'on comprend va dériver et va se fixer sur El Alto, c'est-à-dire sur la ville au-dessus de La Paz. Et c'est à El Alto que va se fixer cette guerre, que va s'installer cette véritable guerre civile entre les forces de l'ordre, militarisées, les militaires, la police, le gouvernement et les habitants de El Alto, plus ou moins organisés. On aura du mal à savoir la part d'organisation de cette contestation, de cette insurrection, entre une insurrection spontanée et populaire et des choses plus organisées, des éléments plus organisés.
Et là, en ce moment, il y a les forces armées qui se sont déployées dans l'obscurité. C'est comme au cinéma. Tout faisait éteint. Ils se déplacent avec des armes de guerre. Ils tirent avec des balles incendiaires. C'est une guerre que l'on est en train de vivre, un véritable massacre.
Son sus nuevos negocios y frases, su socio cuando les crees tú. Mentiras, mentiras. Enemigos al principio eran todos los comunistas, guerrilleros como Ernesto y Marcos, ahora terroristas. Mentiras, mentiras. Quiere comprarlo todo y dice para mejorar y ser dueño del mundo su vicio principal. Y no te asustes, hermano, que te quitan el aire. Tal vez la tierra que pises ya no sea tu tierra. Mentiras, mentiras. Me voy, hermanas y hermanos, cantando esta canción. No olvides pasar el dato de la situación. Nosotros decidimos y decimos un no. Nosotros somos más, hacemos revolución. Mentiras, mentiras. Mate, con hojas de coca mate. Que no nos mate a tu pueblo mate. Con hoja colombiana mate. Que no nos mate a tu pueblo mate. Con hoja boliviana mate. Que no nos maten a tu pueblo mate. Que no nos maten a tu pueblo.
Et nous voilà donc à El Alto, cette immense banlieue, on va dire, au-dessus de La Paz. À première vue, on s'est dit, oh là là, c'est comme ces gens sont pauvres, ces constructions en cours, en briques rouges, plus ou moins inachevées, ou au contraire en adobe, en briques de terre, oh là là. Il faut faire très attention à notre premier coup d'œil, à notre première lecture. C'est comme quand on dit, oh là là, quel bazar, quand on voit quelque part dans le monde un marché, un souk, etc. On sait très bien, on l'a vu ensemble dans pas mal de voyages et de reportages, que très souvent, au contraire, c'est exactement l'inverse. Rien n'est plus organisé qu'un bazar, rien n'est plus organisé qu'un souk, et rien n'est plus organisé que ce qui nous a l'air, qui nous semble à nous désorganisé, voire même pas si pauvre que ça, pas si pauvre que ça. En tout cas, ce qui est évident à El Alto, c'est le dynamisme extraordinaire de cette ville qui est à près de entre 800 000 et 1 million d'habitants. Il n'y avait rien en 1985, c'était un plateau battu par les vents froids et traversé par la poussière. Les habitants s'installent peu à peu et surtout s'organisent à travers tout un tas de structures et d'associations de voisins, c'est des vieilles traditions communautaires, puisque la plupart des habitants sont Aymara, Quechua, ont l'habitude de ces façons de s'organiser communautaires et solidaires. Ils reproduisent d'une certaine façon ces habitudes-là et cette culture de l'organisation, de l'auto-organisation à leur vie quotidienne, à la construction, au travail, etc. Voilà le point de vue d'un sociologue qui est depuis pas mal de temps déjà à La Paz et qui travaille sur El Alto et qui s'appelle Franck Poupeau.
On va passer par un des plus vieux quartiers d'El Alto qui s'appelle Ciudad Satélite, qui est en gros le quartier des classes moyennes, inférieures, employés, vous voyez. Les quartiers qui ont été fondés en 1950. Alors maintenant, toutes les activités, vous voyez, là on est dans un quartier industriel, c'est regroupé par corporation en fait. Là on a les transportistes, on a les fabriques de briques. Le quartier d'à côté, ça va être les marchands de grains, les vendeurs de fruits et légumes, etc. C'est très très segmenté à El Alto en fait. C'est pas du tout une ville misérable comme on la présente souvent, y compris dans les imaginaires militants, à El Alto des pieds, les pauvres qui sont révoltés contre les multinationales. C'est, un, c'est une ville extrêmement active qui est un des poumons économiques du pays, où il y a des sommes d'argent gigantesques qui circulent. Alors on a une impression de pauvreté parce que en fait la, toutes les restructurations de l'économie ici se sont traduites par du travail informel et donc un émiettement du travail en apparence. Sauf que derrière tous les petits vendeurs de légumes, de produits comme ça,
c'est
de,
télé, hein. Oui,
en
c'est
fait il y a bricolage. Quelques grosses familles qui contrôlent tout. Dans l'acheminement des fruits et légumes des Yungas, c'est 4 ou 5 familles. Pareil pour les voitures d'occasion importées en Bolivie. Et on touche là un des problèmes clés du gouvernement Morales, qui est dans la mesure où il est une fédération d'organisations sociales, hein, au moins officiellement, et où il dépend aussi de toutes ces organisations, bah, tous les secteurs vont privilégier leurs intérêts corporatistes. Voilà. Beaucoup ouais. plus que le soutien au gouvernement. Que ce soit les mineurs, on a vu ça, que ce soit les vendeurs de voitures, les vendeurs de vêtements usagés, etc.
Mais ici, c'est un fief masse.
C'est devenu un fief du masse, oui, mais c'est, finalement c'est assez récent, ça date de la guerre du gaz. Au moment de la guerre du gaz, et surtout dans les prolongements de la guerre du gaz, si vous voulez, avec le référendum sur la nationalisation qui a eu lieu en 2004, c'est là où vraiment il a conquis El Alto, véritablement.
Alerte, alerte! L'anti-impérialisme traverse l'Amérique latine!
C'est un appel à la grève générale dans la ville d'El Alto.
Lourdement armés avec des armes de guerre, si je ne me trompe pas, je les observe à peu près à 30 mètres de moi. Ils affrontent la population de ce quartier. Ils utilisent des gaz chimiques.
Justement, nous sommes dans la rue à cause du gouvernement, parce que le gouvernement ne règle pas les vrais problèmes dans ce pays.
En l'avenue Juan Pablo II, la principale,
dans l'avenue Jean Paul II, la rue principale, il y a aussi plusieurs barrages érigés à l'aide de poubelles et de pierres. Et à cet endroit, il y a eu plusieurs manifestations de la population d'El Alto qui s'opposent à nouveau au projet gouvernemental d'exportation de gaz depuis un port chinois. Nous sommes contre l'exportation.
Le chauffeur qui s'est pris un petit coca.
Non, c'est pas un coca, non, c'est un soda local.
Ah ah. Anti-impérialiste.
Vous étiez là pendant la guerre du gaz?
Si, estuve en mission en la.
Moi, j'étais dans mon quartier.
Ciudadela.
Donc, c'est à Ciudadela, c'est en haut de l'autoroute où je vous ai.
La courbe dans ce virage. Empezaban a disparar de los costados cuando bajaban los cisternas.
C'est là qu'ils ont tiré, en fait, ils descendaient avec les citernes.
Sí, y lo bloqueaban todo el trayecto de la autopista para que no baje combustible a la ciudad.
Et on bloquait pour que les citernes de combustible d'essence ne puissent pas descendre à la ciudad, à la ville.
Sí, todo se bloqueaba.
Totalmente
incomunicado por el petróleo, no más que
donc,
todo.
Donc, il n'y avait plus de pétrole, c'était la pénurie de pétrole en bas.
No podía ingresar a la ciudad.
Oscar, le taxi que nous rencontrons et qui évoque ce qui s'est passé ces journées d'octobre à El Alto, au-dessus de la Paz Bolivie. Évidemment que la bêtise de la violence aussi, de la répression, va soulever, va fédérer toutes les revendications, tous les mouvements en cours à ce moment-là en Bolivie. Bien sûr qu'il y a la question du gaz qui traverse le Chili et ce qui éveille et ce qui exacerbe le sentiment national bolivien. Mais il y a d'autres questions. Il y a l'éternelle question de la répartition des terres. Il y a la question du territoire. Pour les indigènes, il y a cette lutte contre l'Alca, ce projet d'un grand marché à travers toutes les Amériques, évidemment, qui sera au profit comme d'autres marchés au profit évidemment des plus puissants, des multinationales et des États-Unis. Tout ça se fédère, se mêle et c'est à partir, cependant, de leur propre expérience, de leur vécu, de leur quotidien, que les habitants d'El Alto vont se soulever. Ce qui est très caractéristique, très particulier dans cette révolte 2003, aujourd'hui, un certain nombre de sociologues, de politiques, d'observateurs de toutes sortes, et puis d'habitants eux-mêmes, se sont demandé un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous est arrivé, qu'est-ce que nous avons fait. Et je vous signale un livre particulier entièrement passionnant de Raoul Zibeki, qui est un sociologue bolivien et qui a un livre qui est dans la collection L'Esprit Frappeur, l'éditeur s'appelle Le Jouet Enragé, et qui raconte comment ça s'est passé. Alors c'est un travail de sociologue, c'est très pointu, c'est très passionnant pour comprendre comment est organisée cette société. C'est pas la seule en Amérique latine à être organisée de cette façon, mais le soulèvement a été dirigé à partir des aspects de la vie quotidienne, et tous les dirigeants et conseils de voisinage, les associations, toutes les instances organisationnelles ont été débordées par la base. Personne ne peut dire qu'il est l'organisateur de ces révoltes. Et pourtant, cette insurrection a été organisée, auto-organisée. C'est un phénomène assez passionnant politiquement pour qu'on s'y attarde et qu'on écoute le témoignage d'Oscar, le taxi anti-impérialiste. Mais vous étiez seulement un témoin ou vous étiez parmi les insurgés?
On était dans la zone, parce que chaque zone avait assez bloqué les barricades.
Moi j'étais dans ma zone et puis je devais faire les barricades, je faisais les barricades, les blocages dans mon quartier.
Mais qu'est-ce que vous vouliez? Pourquoi vous faisiez ça? Quelle était la revendication?
La nationalisation du gaz.
C'était la nationalisation du gaz.
Si, peleamos contra todo eso, no? Y teníamos que apoyar, empezar aquí en el alto, y teníamos que apoyar todos nosotros abajo.
On se battait contre ça, il fallait qu'on soit tous ensemble pour bloquer ce processus.
Porque era demasiado el negociado que hacía el gobierno y de esa manera que todos ya. Empezaba una sola persona y todos nos pusimos de acuerdo para bloquear totalmente.
Donc, on ne voulait pas que le gouvernement fasse ce business, alors on a commencé à quelques-uns et après on était tous ensemble.
De esa manera que hemos logrado tumbar al gobierno.
C'est comme ça qu'on a réussi à faire tomber le gouvernement.
Y ha tenido que renunciar, ¿no?
Il a été obligé de démissionner.
Y con este gobierno ya estamos nacionalizando, ya tenemos todo ya tranquilo.
Et maintenant on est en train de nationaliser, maintenant on est tranquille, tout est tranquille.
Si, estamos conformes con el gobierno, ¿no?
Maintenant, nous, on est d'accord avec le gouvernement.
Vous voyez, vous faites un lien, hein, entre la guerre du gaz et l'élection de Morales en 2005.
El fin acabado, pero nadie sabía que iba a ser gobierno, pero ha llegado a ser gobierno.
On ne savait pas, hein, personne ne savait qu'il allait gagner. Mais voilà, maintenant c'est Evo.
53%.
53% il a fait.
Auditeur de Radio Pachamama, je suis en ce moment dans le secteur de Sankata, où les forces spéciales de sécurité font feu sur tous ceux qui protègent la population, qui se sont regroupés dans cet endroit. Nous avons supporté trop d'humiliations de la part du gouvernement. Halte aux humiliations.
Alors nous, notre plan era dar la asistencia, porque donde le voy a mostrar es la autopista y ahí cerro. Y de ahí disparamos, no le podíamos dar porque era muy lejos, no era de mucho alcance.
Alors nous, on barrait la route pour que les camions citernes qui étaient escortés ne puissent pas descendre. Et on avait deux vieux fusils Moser.
Claro, de la guerra del Chaco.
C'était des antiquités. Notre plan, c'était de tirer dans la citerne pour que le camion citerne explose.
Intentábamos, pero lo que sí se era unas ruedas que conseguíamos, se le metía adentro lleno de trapos.
Et nous, on prenait des pneus avec, on mettait des chiffons dedans avec de l'essence.
Lo lanzábamos, queríamos nosotros que explote y siquiera un cisterna y se tapa todo.
Donc on laissait dévaler ces pneus enflammés. Nous, on espérait que ça fasse exploser un camion citerne et que ça bloque complètement le passage.
Trouvábamos una bomba Molotov encima del caimán, se quemaban, ¿no?
Alors nous, on envoyait des bombes Molotov sur les véhicules blindés.
Porque ese pétrole que bajaba a la ciudad era para todos los ricos.
Parce que ce pétrole, c'était pour tous les riches, parce qu'il y avait une pénurie de pétrole, on avait réussi à bloquer.
Y entonces, de esa manera que tenían que bajar el petróleo abajo y no podían bajar siempre.
Donc, il fallait qu'ils approvisionnent avec les camions citernes la ville d'en bas, la passe. Et nous, on voulait pas.
Los militares necesitaban el producto, la gasolina para poderse movilizar y no tenían gasolina.
Et c'est les militaires aussi qui avaient besoin de l'essence pour pouvoir se déplacer.
Y por eso es que los militares tenían que bajar y bajaban armados.
Alors les militaires étaient armés, ils escortaient avec des armes.
Y en las villas así, en las periferias, varios periferias, por ejemplo la autopista por donde vamos a bajar, en eso había el confrontamiento, todo ese trayecto, porque es...
Et donc dans tous les quartiers, dans tous les petits quartiers qui sont des quartiers pauvres, il y avait des combats. Et aussi surtout par où on va passer, par l'autoroute.
El doctor Jorge Molina ha confirmado la muerte de Ramiro Vargas Astilla, de 22 años, quien llegó a este nosocomio ya sin vida. Hasta el momento se tiene registrado dos muertos. Entramos en Ventilla, carretera Oruro.
Ah, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que El Alto où on est, c'est la ville pauvre, enfin pas si pauvre que ça, c'est la ville nouvelle.
Populaire, quoi, oui.
Populaire, voilà, c'est la ville populaire, mais qui est au-dessus de La Paz. Et El Alto, c'est là où il y a tous les stocks. Il y a l'aéroport, il y a les entrepôts. Toute la stratégie pour les insurgés consistait à bloquer l'approvisionnement. C'est-à-dire que ça ne descende pas, que les produits, tout ce qui est nécessaire, l'essence, tout ce qu'on peut imaginer, ne descendent pas à la passe. Et tout l'enjeu était là. Tout l'enjeu était là.
Toda esta villa que ve usted allá arriba, ellos,
tout ce quartier en face,
botaban igual bombas, monotop, piedras,
ils lançaient des bombes molotov, des pierres sur l'autoroute.
Mira, ve, es una altura muy buena y para hacer llegar las cosas.
Parce que c'est juste la bonne hauteur pour pouvoir viser les.
Era aquí donde nuestra pelea de nosotros porque.
Donc moi je me battais ici, moi juste ici.
Disparaban de aquí arriba, pero tratábamos de cuidarnos.
Et ils tiraient, les militaires tiraient de vers le haut, mais nous on se protégeait.
En este trechito no podían subir los militares hacia arriba, mire cómo es la.
Comme c'est très abrupt, ils ne pouvaient pas monter les militaires.
Ya no los hacemos, lo hemos hecho papilla por aquí, como le digo a un caimán, lo hacemos llegar encima el caimán y.
Pero ici on a mis la patée aux militaires.
Yo he aprendido muchas cosas más antes y he empleado también esto, ¿no?
Moi j'avais appris plein de choses avant, donc j'ai mis au service mes connaissances.
Cuando había el golpe de estado de Natuchbuch.
Quand il y a eu le coup d'état de Natuchbuch, du dictateur.
Tenía 12 años.
J'avais 12 ans à ce moment-là.
Y ahí tenía que ayudar en llenar arena y trapo y gasolina.
Il fallait que j'aide à faire les cocktails Molotov avec du sable, de l'essence et des chiffons. On a volé un véhicule blindé ici.
Este es el plan autopista, la zona que va vivo yo.
Moi, j'habite juste là, moi.
En ese cerro nosotros estábamos toda la gente.
Voilà, nous, on habite sur ce fond de montagne.
Y tenemos un parlante allá y recolectamos botellas, gasolina, arena.
Donc, on avait un haut-parleur et on appelait les gens ce qu'ils nous donnent pour collecter du sable, des bouteilles et.
Bombas Molotov,
pour subimos. Les bombes Molotov, les cocktails Molotov.
Y las radiofides del padre Pérez también informaba que el presidente dónde está, cómo está, y no tenía que salir el presidente por aquí para nada.
Et aussi il y avait la radiofides du père Pérez qui expliquait qu'il fallait surtout pas non plus laisser partir le président, le laisser monter vers l'aéroport.
Este bandido se escapó que en helicóptero del estado mayor.
Este bandido, il est parti quand même en hélicoptère, il s'est échappé en hélicoptère.
Es una cosa para nunca olvidarse.
C'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais.
Por eso esperamos que se haga justicia también.
Por eso queremos que la justicia sea hecha hoy.
Bello a Sánchez de Lozada aquí en Bolivia, dentro de la cárcel. Y queremos
ver Sánchez de Lozada aquí, juzgado y en prisión.
La cárcel, eso es lo que queremos.
C'est ça qu'on veut.
Comme depuis un mois, des milliers de Boliviens, paysans indiens, ouvriers des mines, manifestaient encore hier dans tout le pays, quelques heures avant que le président Sánchez de Lozada n'annonce son départ. Malgré la répression, la rue a donc finalement gagné contre un président à la politique économique ultralibérale, considéré comme éloigné du peuple.
18 octobre 2003.
Dans sa lettre de démission lue au Congrès, il affirme toutefois que son départ ne résoudra pas à lui seul la crise économique. Avec sa famille, il a quitté le pays cette nuit pour les États-Unis où il a été formé, alors que le Congrès le remplaçait aussitôt par le vice-président Carlos Mesa, un journaliste et historien réputé qui avait dénoncé la répression. Le principal leader indien, Evo Morales, a réagi positivement à son investiture. Mais devant le principal syndicat ouvrier, les mineurs qui ont appris la nouvelle restaient mobilisés. Un opposant a même annoncé que les barrages qui bloquent le pays ne seraient pas levés sans garantie.
Goni se fue y después.
Alors Goni s'est enfui.
Goni escapó, los mineros ya estaban cerca aquí para llegar a la ciudad. Le han peleado mucho en el camino porque había muertos.
Et les mineurs qui sont venus ici nous aider, ils avaient été obligés de se battre aussi très violemment pendant la route. Ils ont aussi payé de leur vie.
Y entraron a la ciudad con dinamitazos, era una alegría que
a Goni se fue. Alors c'était la fête parce qu'ils avaient des bâtons de dynamite, donc c'était un vrai feu d'artifice.
Era muy emocionante ese día porque todos recogíamos comida para ellos porque no tenían que comer.
Donc c'était vraiment émouvant ce jour-là. On avait tous collecté de la nourriture pour tous ces mineurs qui arrivaient.
También recuerdo mucho que aquí había un padre, un Obermayer.
Il y avait le père aussi, le
ese
père,
padre,
Robert Mayer.
Ese padre ha peleado con su bandera, es un señor que es de edad, es suficientemente...
C'est un personnage âgé, mais il s'est battu avec nous.
Agazaba él mismo así ensangrentado con su sotana.
No, puis avec cosía, sa sotana,
su bandera paso a paso y pelea, y sacaba de la ventana así, y le dábamos paso porque era el padre Robert Mayer.
Donc il sortait son drapeau blanc à la fenêtre, no había, les gens le laissaient passer parce que c'était lui.
No había confianza en una ambulancia porque en las ambulancias andaban los militares.
Mais on n'avait pas confiance dans les ambulances officielles parce que c'était les militaires qui se déplaçaient avec les ambulances.
Casi va así donde ha sido más heridos y muertos.
C'est ici qu'il y a eu le plus de blessés et de morts.
L'autopista aquí que
había, l'autoroute.
Y había los vagones más abajo abandonados de tiempo y eso empujaron por la riel.
Donc il y avait des vieux wagons abandonnés, ils les ont poussés sur les rails jusque dessus.
Lo hicieron caer todo esto,
lo bloquearon. Ils les ont fait basculer ici pour bloquer l'autoroute.
Autopista todo trancado.
Donc l'autoroute était complètement bloquée.
No podían pasar por donde.
Y había pas moyen de traverser par là.
Hay una pasarela, esta es la que lo voltearon también.
Là, los de la rail.
Quebraron con dinamita.
Ils ont fait tomber la pasarela avec la dinamite. Donc ça a bloqué. Ça a bloqué.
Era muy interesante.
C'était très intéressant.
Yo soy taxista y veo aquí y colmó el vaso que cuando ya hicieron en el alto yo también apoyé también.
Et donc là quand ça a commencé à aller à l'alto, c'est la goutte qui a débordé du qui sont presque débordé.
Voilà une insurrection contre la globalisation néolibérale qui a conduit non seulement au départ, à la fuite assez honteuse du président Gonzalo Sanchez de Losada vers les États-Unis, mais qui a été une victoire puisque un décret de nationalisation a été signé le 1er mai 2006 par Evo Morales. C'était un reportage avec Antoine Chao, montage Agnès Lebotte. Merci à Véronica Ouza, Solange Beautigui, Franck Poupeau et Sergio Caceres de l'édition Jouets enragés. Carnet bolivien 1999-2007, Un goût de poussière de Franck Poupeau, c'est aux éditions Au lieu d'être, et Disperser le pouvoir, les mouvements comme Pouvoir anti-étatique, Soulèvement et organisation à El Alto de Raoul Sibeki, publié par le Jouet enragé. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission, vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Michel Bézikian, c'est Coy Nguyen et Raphaël Moutert qui ont réalisé cette émission. Merci à nos amis des radios de El Alto également, assistante Charlotte Perry, et c'est Agnès Lebotte qui attend vos messages au répondeur de là-bas. Si j'y suis, au 01 56 40 37 37, réclame.